France Culture.
Bonjour le Book Club, bonjour à vos invités. J'ai lu le Hibou et la baleine de Nicolas Bouvier. Et ce livre-là a pris la valeur d'un petit fétiche. Et je vois ce livre, ce recueil d'images, comme un reposoir, autant d'abris. Il s'arrête, il souffle, et puis il convoque des souvenirs, des anecdotes, des visages aimés, des amis, évidemment.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Un hibou, une baleine, un oiseau sur échasse et plusieurs autres animaux humains aujourd'hui dans votre book club. En 1993, quelques années avant sa mort, l'écrivain, poète, voyageur Nicolas Bouvier confie un livre tissé d'images et de courts textes aux éditions Zoé, lesquelles éditions fêtant leurs 50 ans le republient cette année en guise d'anniversaire. Véritable autoportrait de l'auteur de l'usage du monde, du poisson scorpion, des poèmes, des carnets aussi du Japon, nous évoquons ce bel ouvrage en compagnie de deux connaisseuses de l'œuvre de Bouvier, Nadine Laporte et Aude Seigne. Vers 15h50, Clémentine Mélois se demande comment répondre à notre commande des lectures d'actu. Elle suggère de pleurer de longs sanglots avec Selena Gomez et d'écrire l'infraordinaire avec Georges Perec. Et en fin d'émission, on joue avec vous au grand jeu des pages musicales. À chercher trouver de la musique dans les livres, il y en a dans ceux de Bouvier. Nous voilà ensemble pour une heure sur la route. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Bonjour Nadine Laporte.
Bonjour.
Vous êtes écrivaine, chercheuse, vous avez écrit plusieurs textes sur Nicolas Bouvier, dont celui que j'ai avec moi, Nicolas Bouvier, Passeur pour notre temps, c'était aux éditions du Passeur. Merci beaucoup d'être avec nous pour l'évoquer, lui, son œuvre en général, et puis plus particulièrement ce livre-là, Le Hibou et la baleine, paru aux éditions Zoé. Soyez la bienvenue dans le Book Club.
Merci beaucoup, merci de l'invitation.
Et bonjour à vous, Aude Seigne.
Bonjour.
Vous êtes romancière, vos textes sont parus aux éditions Zoé. Voilà, qui ont fait évidemment signe aujourd'hui. Et vous êtes une lectrice chez laquelle a infusé Bouvier, m'a dit à l'instant Nadine Laporte pour vous présenter juste avant le direct. Bienvenue dans le Book Club.
Merci beaucoup.
Ici, tout commence d'habitude par des questionnaires lecture qui font le portrait de nos invités en tant que lectrice et en tant que lecteur. Alors, on va parler de vous dans un instant en tant que lectrice très informée, très sensible de l'œuvre de Bouvier. Mais c'est très important de parler de Nicolas Bouvier lui-même en tant que lecteur parce que lui-même le fait. Il évoque la place qu'ont les livres dans sa vie. Il l'évoque dans ses livres et dans cette archive de 1993, au micro de l'Agora.
Ces écrivains que j'admire, ça va de Montaigne à Kurt Vonnegut Jr., écrivain américain que j'aime énormément, en passant par Conrad, Michaud, Céline, je veux dire, je vais pas vous faire la liste, là. Ce sont des gens qui vous donnent du courage. Ils vous donnent pas un style, ils ont leur style, on peut pas le leur prendre. Il n'est pas question de le leur prendre, d'ailleurs. On n'en a pas du tout envie. Ils vous donnent le courage de vous mettre au travail pour essayer de redonner plus loin un peu du plaisir qu'ils vous ont donné. Tous les livres importants vous aident à régler votre mort. Ensuite, il y a beaucoup de livres qui vous aident à vivre quand vous n'en avez plus le courage. Moi, j'ai été remis en piste, mais exactement comme un jouet électronique qu'on recharge en changeant la pile, par des lectures qui m'ont véritablement nourri, vitaminisé. Et puis, je me suis mis à tout revoir avec un œil différent. Il y a des lectures qui vous permettent aussi de relativiser des problèmes que vous avez énormément gonflés par insuffisance mentale, donc comme vous êtes mentalement tout petit, un problème idiot et minuscule prend toute la place, comme un gros cumulus, et quelquefois, des lectures vous permettent de ramener ça à des proportions plus modestes. Et puis, il y a des lectures qui vous bouleversent complètement, et qui vous donnent le sentiment que votre vie entière est une sorte d'imposture. Et je me souviens d'un livre, c'est l'arrangement d'Elia Kazan, après lequel j'ai pas ouvert mon courrier pendant une semaine et j'ai hésité à mettre 3 chemises dans un sac et à disparaître. C'est tout d'un coup un livre qui m'a dit, mais tu pourrais vivre autrement, faire autre chose, vivre ailleurs, changer.
C'est un extrait du film, en fait, de Patricia Platner, Le hibou et la baleine, Nicolas Bouvier. Il dit beaucoup de choses quand même très puissantes sur son rapport aux lectures. Ça peut vous aider à régler votre mort, ça peut vous aider un jour à décider que vous pouvez vivre et être autre chose autrement, ça peut vous aider à relativiser, ça peut vous aider à vivre. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire, où commencer plutôt si on parle de Nicolas Bouvier, lecteur, Nadine Laporte?
Alors, il raconte dans un petit ouvrage qui est publié chez Zoé, un mini Zoé, il s'appelle La bibliothèque à 8 ans. La gare à 8 ans, pardon. Il raconte que chez ses parents, en fait, il y avait, c'était le monde des livres. Hein, son père s'occupait de la bibliothèque publique universitaire à Genève. Et qu'il a découvert le monde en lisant. En ouvrant des grands atlas en lisant des livres d'aventure. Alors, il en parle aussi dans ce livre-là, là, dans Le hibou et la baleine, où il dit à un moment que finalement, il a entièrement adoré Dumas, Stevenson. Mmh. Enfin, bon, voilà, c'est des lectures d'enfants qui l'ont fait s'évader complètement. Ça, c'est je vais pas parler à sa place, bien sûr, mais je pense que c'est le début, enfin vraiment l'origine. Et puis après, c'est un énorme lecteur de tout, en fait. Enfin, voilà, il est vraiment une curiosité absolue. Et il a effectivement des écrivains dont il se nourrit, pas forcément pendant le voyage, mais quelquefois avant, quelquefois après, et puis des écrivains en général. Donc l'usage du monde, c'est une formule de Montaigne. Hein. Donc Montaigne, c'est quelqu'un qui l'accompagne en permanence. Dans Le hibou et la baleine, là, il y a une reproduction de ces deux pages manuscrites dans lesquelles il écrit en rouge « Montaigne magnifique ». Mmh. Donc il a comme ça des écrivains qui l'accompagnent, plus que des livres. Enfin, c'est-à-dire qu'il entend, j'ai l'impression qu'il entend les écrivains en les lisant. Après, il y a toute une discussion qui l'amuse beaucoup et qu'il reprend assez souvent entre est-ce qu'il faut lire avant, est-ce qu'il faut lire pendant, est-ce qu'il faut lire après le voyage. Bon, ça dépend des pays qu'il traverse. Bon, voilà, mais c'est quelqu'un...
En tout cas, c'est aussi un lecteur actif, parce que vous dites qu'il prend des notes, continue de prendre des notes. Mmh. On peut quand même dire qu'il grandit dans une sorte de milieu bourgeois, culturel, aisé. Donc, la fréquentation des livres, c'est quelque chose qu'il voit autour de lui, qui est valorisé, qui ne lui est pas du tout un territoire inconnu. Donc, il est aussi au travail quand il lit Bouvier.
Oui, et puis il a même il raconte en tout cas qu'il a quelque chose qu'il appelle de la magie blanche. Avant de se mettre à écrire, il copie par exemple sur sa feuille blanche des poèmes de Michaud, par exemple, ou des textes d'Henri Michaud.
Donc, mais pour se mettre en route, quoi.
Voilà, pour se mettre en route. Il appelle ça de la magie blanche. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que oui, c'est une sorte d'exorcisme devant la page blanche. Oui, il se met en route. C'est beau comme image, en plus, pour lui. Oui, c'est un lecteur très actif. Il y a énormément de notes, énormément de carnets, d'annotations.
Et cela tout au long de sa vie. C'est-à-dire que aussi bien dans l'adolescence, vous avez cité quelques lectures de jeunesse, mais aussi peut-être juste avant de partir dans ses grands voyages avec Thierry Vernat et dans ses vieux jours, c'est-à-dire que la fameuse pièce Chambre rouge ou Chambre rose dans laquelle il écrit, c'est une pièce où il y a des livres.
Alors moi, j'ai pas vu la Chambre rouge. Je sais pas s'il y avait des livres, je sais pas le dire exactement. Mais en revanche, à côté de la Chambre rouge, il y avait le petit salon. Il vivait dans une petite maison avec ses enfants et sa femme, Eliane. Et là, c'était rempli de livres. Mmh. Enfin, vraiment, avec des colonnes de livres par terre. C'est vraiment une maison où les livres vivaient, étaient vivants. Et je pense qu'il a, il a lu vraiment jusqu'au bout. Enfin, après,
On l'entend dans l'archive où il dit il y a des livres qui peuvent me remettre comme en route, mais au sens presque comme un jouet cassé, quoi, et me remettre sur pied, mais aussi régler ma mort. Est-ce qu'il y a aussi un rapport assez existentiel avec la lecture? Est-ce que ça veut dire qu'il adressait des questions à la lecture, aux livres qu'il lisait, par exemple, Nadine Laporte? Est-ce que ça pourrait être ce genre de lecteur?
Oui, mais comme tout lecteur, on adresse toujours des questions à des livres et en fait, chaque texte, quand on est un lecteur assidu, chaque texte n'apporte pas vraiment de réponse, pose encore plus de questions que celles qu'on se posait au début. Donc, je pense que c'était vraiment un lecteur aussi très érudit, extrêmement érudit, et il était assez amusant parce qu'il avait des obsessions. Par exemple, les Hittites, c'était une sorte d'obsession. Et donc là, il lisait absolument tout ce qu'il pouvait trouver sur les Hittites, même s'il était, par
exemple, au Japon. Mais d'un point de vue de la documentation, d'un seul coup, voilà, pour approfondir un sujet.
Donc là, il allait vers une forme de documentation. Il y a un ouvrage sur les lectures de Bouvier, publié aux éditions Zoé, qui est une thèse en fait faite par Lyuba Bischoff, qui s'appelle Nicolas Bouvier, l'usage des savoirs. Donc elle montre très bien comment en fait toute l'écriture de Nicolas Bouvier vient du voyage bien entendu ou d'expériences, mais en même temps il y a une sorte de d'arrière-plan de lecture immense qui ensuite décante. Bon, ça c'est un mot qui appartient à Nicolas Bouvier, qui décante et puis qui font qu'il a son style, enfin qu'il.
Mais qu'on aperçoit quand même, c'est peut-être une question que je peux vous adresser à vous, Haute-Seine, vous êtes ici en tant que lectrice de Nicolas Bouvier. Est-ce que vous voyez affleurer le Bouvier lecteur? Est-ce que ça vous intéresse de repérer dans les textes de Bouvier des espèces d'iceberg de ce continent de bouquins qu'il aurait fréquenté?
Alors, je crois que c'est effectivement... Moi, je l'ai découvert quand j'avais 18 ans et où je lisais... j'étais au lycée, donc je lisais beaucoup de littérature classique. Et puis, tout à coup, de découvrir Nicolas Bouvier et de découvrir qu'il mélange, en fait, toutes ses influences, que comme disait Nadine Laporte, il y a une sorte de source des savoirs très hétérogène, comme ça, depuis son enfance. Et je crois qu'il utilise, lui, le mot souvent éducation un peu prime sautière, comme ça, qu'il aime bien vraiment voguer du livre pour enfants à l'atlas, à la littérature classique. Et tout à coup, moi, c'était comme si je réalisais qu'on avait le droit de lire comme ça et qu'on avait le droit d'écrire comme ça, qu'on avait le droit de mélanger, en fait, tout ce... qu'on devait pas s'en tenir. C'est pas parce qu'on fait de la littérature de voyage qu'on va être dans la lignée de Nerval, ou enfin voilà, que c'était beaucoup plus vaste que ça. Il a d'ailleurs fait un livre, sauf erreur, c'est « Route et déroute », où il fait l'éloge d'autres voyageurs. Donc en fait, là, ça mélange, il y a même des médecins du XVIe siècle. Enfin voilà, toutes des gens qui ont eu cette même approche, en fait, complètement hétéroclite du savoir. Et je pense que... enfin, ces piles de livres chez lui, ça m'évoque la différence entre des piles de livres posées au sol et effectivement son père qui était bibliothécaire dans la grande bibliothèque à Genève. Ça m'évoque une sorte de plaisir de changer les règles, en fait, enfin, en tout cas de se libérer.
Parce que c'est l'ego,
fonctionnement, quoi, exactement, ouais. même visuellement, en fait. Donc voilà, moi ça fait partie des choses qui m'ont beaucoup plu dès le départ chez lui.
Changer les agencements, pouvoir faire des liens entre un territoire et un autre, chose qu'on va voir très spécifiquement dans le livre Le Hibou et la Baleine dont nous parlons aujourd'hui. Mais puisque vous utilisez l'une et l'autre ce mot de passeur, est-ce que par exemple lire un texte de Nicolas Bouvier, c'est être aimanté vers d'autres textes? Est-ce que ce sont des livres qui donnent envie de lire d'autres livres, Haute-Seine?
Alors pour moi, ça a énormément été le cas. J'ai eu vraiment une approche un petit peu boulimique, en tout cas obsessionnelle, de Nicolas Bouvier quand je l'ai découvert. Je préparais aussi des voyages et des textes, et donc c'était vraiment comme si je trouvais une sorte de père en intellect et qui me guidait en fait vers
d'autres textes pas écrits par lui.
Vers d'autres textes, notamment vers Michaud, par exemple, enfin vers d'autres influences, en fait, tout un pan de la littérature où je savais pas que ça existait, je lisais pas du tout de littérature contemporaine ni de littérature de voyage, donc voilà, je m'apprêtais à partir quelques mois avec mon sac à dos, puis c'était en plus, je viens de la même ville que lui, alors c'est pas la même génération, mais il est par exemple la même génération de que ma grand-mère, donc il y avait quand même une sorte de lien avec le réel qui existait. Enfin, on vient du même endroit, on a eu peut-être le même besoin de s'échapper, peut-être pour des raisons différentes, mais en fait, tout ça m'a... Lui, il parle des livres qui aident à vivre. Moi, lui, il m'a donné des outils, en fait, qui m'ont aidé à réaliser ce que je souhaitais à ce moment-là.
Il vous a fait lire quoi, par exemple? Est-ce que vous vous souvenez être... Donc, Michaud, voilà, ça fait partie des choses qui vous auraient peut-être guidé vers Michaud. Quoi d'autre?
Alors, il parle souvent d'un auteur vraiment méconnu qui s'appelle Lorenzo Pestelli, que j'ai énormément aimé parce qu'il mêle une sorte d'approche du voyage, de poésie presque surréaliste comme ça, qui était un contemporain de Bouvier, mais il est mort à 40 ans, donc en fait, il a eu, enfin, je crois que Bouvier avait une immense admiration pour lui.
C'était un Italien ou pas du tout?
Alors, il a écrit en français.
Ok.
Mais voilà, en plus, en tant que Suisse, on a peut-être ce mélange des langues, surtout à Genève, qui vient assez naturellement, et en même temps, ça ne veut pas dire qu'on les maîtrise, mais disons qu'on est potentiellement nourri de cette diversité linguistique. Mais là encore, moi, j'ai fait des études de français, donc on lisait que des textes écrits en français, et c'est comme s'il n'y avait des fois pas le droit de se nourrir d'autre chose. Donc en partant en voyage, j'avais envie de savoir, quels sont d'autres auteurs, quels sont les contemporains qui ont fait soit ce genre de texte, soit ce genre de voyage. Donc voilà, Bouvier, c'était un guide pour tout ça, je dirais.
Nadine Laporte, quand on parle de Nicolas Bouvier en tant que lecteur, et si on lui rajoute l'idée qu'il puisse être passeur vers d'autres livres, donc on a mentionné Montaigne, dont il fait explicitement mention là, par exemple, dans L'Hibou et la baleine, et vers quoi d'autre il pourrait faire signe régulièrement?
Alors, il parle beaucoup d'un écrivain qui est assez peu connu, qui s'appelle Saint-Gria. Enfin, qui est pas assez peu connu, qui est connu, mais bon, voilà, beaucoup moins. Moi, il m'a vraiment amené vers Saint-Gria, et puis un poète qui s'appelle Vladimir Holan, dont il parle assez souvent aussi, qui est un poète assez mélancolique d'Europe centrale. Et voilà, moi, il m'a amené vers des écrivains vers lesquels je serais vraiment pas du tout allée, et même dont j'avais jamais entendu parler, très honnêtement. Et puis il m'a aussi, alors j'ai dit Montaigne, mais il invite aussi à relire Montaigne de façon totalement différente. Il invite à voir Montaigne comme quelqu'un, comme il le dit, qui donne du courage, qui ne s'embarrasse pas de ni d'académisme, ni de contraintes, ni d'allégeance, une forme de liberté d'esprit, en fait, d'une liberté intellectuelle. Alors Montaigne est tout ça, bien sûr, mais là il le modernise complètement. Enfin, il en fait vraiment un de nos contemporains. On voit pas, en lisant Bouvier, que Montaigne a vécu au XVIe siècle.
Donc si je comprends bien, il faut envisager Nicolas Bouvier comme ayant eu un grand père bibliothécaire de la ville de Genève, grande bourgeoisie très cultivée, qui joue au Lego à tout recomposer comme il veut les influences littéraires et en refaisant des piles, et mais aussi qui est vagabond et prime sautier à l'intérieur même de l'histoire littéraire et ne s'embarrasse pas de tout ce qui pèserait, Nadine Laporte. Il a des admirations, mais elles sont légères. Ou elles sont fertiles?
Elles sont fertiles. Légères, je suis pas certaine.
Non.
Après, il y a un vrai désir, mais ça, Aude en a parlé, il y a un vrai désir de se libérer de justement, des bibliothèques, de la bourgeoisie genevoise.
Mais sans abandonner ni l'érudition, ni le savoir, ni la littérature,
ouais,
ni la poésie.
Ouais, parce que ce sont des facteurs de liberté. Mmh. Mais tout ce qui est académique, il disait qu'il le refusait. Mmh.
Pour aller vers une autre forme de lecture.
Voilà, prime sautière, effectivement, au fur et à mesure de ce qu'il avait envie ou ce dont il avait besoin à certains moments.
Au passage, Aude Seigne a fait son propre autoportrait en lectrice de Nicolas Bouvier. Très rapidement, Nadine Laporte, vous le rencontrez quand, son œuvre, et pourquoi est-ce que vous y devenez si attachée?
Alors moi, je rencontre l'œuvre de Nicolas Bouvier à partir des chroniques japonaises. Je rentrais de 7 ans en Asie, en Chine, et j'étais très 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 malheureuse d'être en France. Enfin, de comprendre le monde, les gens qui parlaient autour de moi, de comprendre le monde autour de moi. J'avais besoin de trouver un ami, en fait, qui me console. Voilà, qui me console d'être chez moi, enfin d'être à nouveau dans un cadre dans lequel on m'attendait et où j'étais à ma place, entre guillemets. J'étais pas décalée, déplacée. Et donc voilà, je cherchais un livre sur l'Asie absolument. Je voulais qu'on me parle de l'Asie. J'ai trouvé Chronique japonaise et là, je suis tombée en amour complètement avec cette manière de voir l'Asie qui correspondait à ce que moi j'avais pu ressentir pendant des années, c'est-à-dire à la fois d'une tendresse tendresse absolue, beaucoup d'humour, beaucoup d'autodérision, parce que quand on est en Asie, voilà.
Il vaut mieux en avoir un peu, oui.
Voilà, et sur soi, c'est sûr qu'il faut essayer de rire de soi. Évidemment, beaucoup d'admiration pour cette civilisation. Voilà. Pestelli disait « Asie, mer courbée ». C'est exactement l'impression que j'avais. Et dans Chroniques japonaises, dans tous ses ouvrages, Nicolas Bouvier redonne vie à cette mer courbée.
Et alors, après vous avoir bien consolé d'être revenu chez vous, Nadine Laporte, il vous a donné envie de continuer à le lire et de l'étudier ?
Oui, alors après, après je suis passée à L'usage du monde. Et là, c'est un livre extraordinaire. J'appelle L'usage du monde, j'appelle ce livre « Livre champagne ». Enfin bon, si j'avais un livre à emmener sur une île déserte, ce serait celui-là. Dans lesquels il y a tout. Il y a la poésie, il y a le monde, il y a les dessins, il y a effectivement l'humour, il y a le désespoir, il y a la souffrance, il y a le monde entier dans cet ouvrage. Et puis on traverse l'Europe, l'Asie, l'Afghanistan, l'Iran, l'Afghanistan, et c'est totalement extraordinaire, donc avec des formules totalement folles. Donc là, j'avoue que L'usage du monde, ça m'a complètement convertie. Alors, non seulement j'étais consolée, mais en plus j'étais convertie, donc voilà, j'ai dédié une partie de ma vie de lectrice, en tout cas, à Nicolas Bouvier, c'est sûr.
On va continuer à parler de lui et spécifiquement de ce livre « Le hibou et la baleine » juste après cette chanson d'un groupe qui s'appelle Habibi, groupe aux origines voyageuses s'il en est, puisque le nom évoque l'amour en langue arabe, mais aussi que sa chanteuse est d'origine iranienne, mais que le groupe, lui, a été fondé aux États-Unis. C'était en 2011, la chanson qu'on va écouter date de 2024, c'est tout récent, s'appelle « On the road », sur la route, c'est l'histoire d'une femme qui prend la route en suivant une étoile, celle de Bethléem, et qui se renseigne sur la météo, mais juste auprès d'un prédicateur.
Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Alors que son fils s'apprête à naître à Tokyo et qu'on lui demande d'aller attendre dans un troquet plus loin, Nicolas Bouvier dresse une liste de prénoms pour l'enfant qui arrive et lui choisit, presque endormi dans un tracé hypnotique, le hibou pour parrain et la baleine pour marraine. Le hibou et la baleine, c'est le titre de ce livre très personnel que Nicolas Bouvier confie à la maison Zoé en 1993 et qui reparaît dans une édition anniversaire. C'est le programme de votre book club cet après-midi. L'auteur, poète, voyageur meurt en 1998 et vous dites, Nadine Laporte, qu'il entretenait avec les images un compagnonnage malicieux. C'est ce compagnonnage qui apparaît dans ce livre. Une vie vraiment de traqueur d'images. Lui qui vantait la capacité de son grand ami peintre Thierry Vernet à se saisir d'un paysage, d'un détail, d'une couleur pour rendre compte de la vibration du réel, comme ils le voulaient l'un et l'autre pour le livre culte de l'usage du monde. Eh bien, on parle de tout ça avec vous, Nadine Laporte, qui qualifiait ce livre d'un glissement des mots vers le visible et des formes vers les mots. Et avec vous, Aude Seigne, qui en est, je crois, une lectrice admirative. Reprenons ces animaux qui donnent le titre au livre, le hibou et la baleine. C'est aussi le titre d'un film dont il faut peut-être dire deux mots, Nadine Laporte. Mais en quoi est-ce que c'est intéressant d'ouvrir sur le rapport singulier de Nicolas Bouvier avant de parler de son rapport aux images, de parler de son rapport aux animaux?
Alors, le film, bon, déjà, juste pour en dire un mot, donc c'est je crois que le film était en train d'être... Enfin, j'ai demandé à Marlies Pietri, qui est la fondatrice des éditions Zoé, et elle m'a dit que le film était en train d'être fabriqué au moment où Nicolas Bouvier est venu la voir en disant « je veux... faire un livre à partir de ce film ». Donc en fait, il y a une sorte de dialogue entre film et livre.
Oui, il dit, c'est presque voilà. Un carnet de notes.
Enfin, voilà, c'est presque un carnet de travail. Quoi, voilà, en fait. Et ouais. C'est vraiment lui qui a choisi l'ordre. Enfin, vraiment, elle a obéi à ce qu'il voulait, qui n'était pas simple, parce que avoir le livre, c'est quand même un livre qui est très 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 difficile à fabriquer et à composer.
Mais qui est hyper beau.
Donc voilà, il y a vraiment le film est aussi très très intéressant. Et alors ce qui est intéressant dans le Hibou la Baleine livre, c'est qu'en fait il y a une présence de Bouvier absolue dans ce livre, à la fois dans les textes, les images choisies et le dialogue qu'il y a entre les deux et les blancs, parce qu'il y a beaucoup de blancs. C'est un livre qui est très 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 beau, et dans son nouveau format on le voit très bien, et on voit cette espèce de malice qu'il avait à ne jamais être dans une case, à ne jamais être là où on l'attendait, à obéir à une forme de... Alors lui disait hasard, hein, il le dit dans ce livre-là, il dit le hasard qui m'a sans arrêt fait vivre.
Enfin, il sourit au moment où il dit hasard, voilà. Je crois qu'il met c'est un entre-tiré ou un entre-crochet,
voilà,
en disant...
Il dit, bon, voilà,
il n'est pas dupe non plus de la manière Exactement. Dont on organise son propre hasard dans l'existence.
Exactement, mais en même temps, dans le livre, il joue avec nous. En nous faisant croire qu'on passe comme ça d'un thème à l'autre, d'une idée à l'autre. Et cette idée de hasard, elle est vraiment mise en place de façon très, malicieuse. Je crois que le mot que vous utilisez est très juste.
C'est le vôtre.
voilà, donc il est... Je l'ai bien choisi à ce moment-là, parce que effectivement, dès le début du livre, il montre que le hibou et la baleine vient donc par hasard d'une écriture hypnotique, dit-il. Alors, cette écriture hypnotique, elle est importante pour lui, hein, cette idée d'être fasciné par quelque chose dont l'écriture, dont le mouvement, dont le geste, dont le visible, enfin qui est tracé. Bon, ça c'est quelque chose qui vient d'Orient, hein, bien sûr, mais bon, et puis qui ensuite travaille pour lui le travail d'iconographie, de recherche des images. Mais cette malice, en fait, à mettre des animaux, effectivement, sur un moment ou sur un éclair de visible, enfin, sur une fulgurance. Je crois que il dit tout quand il dit comment il a trouvé le hibou et la baleine. Alors, il y a des phrases très drôles sur la baleine, parce que, bon, alors je ne sais pas si je dis exactement ce qui se passe, mais je peux le dire rapidement. Il dit qu'en fait, on a chacun un animal totem, hein, qui n'est pas du tout l'animal auquel on pourrait ressembler physiquement, mais qui est... Alors lui, il dit par exemple qu'il ressemble...
Mais que par ailleurs, ça l'amuse de voir les ressemblances exactement. Des humains avec les animaux.
Qu'il
ça dit aussi son rapport au regard.
Oui, qu'il a réussi à monter un film le jour où il s'est rendu compte que la monteuse ressemblait à un charançon.
De profil.
Hein, voilà, de profil. Donc, bon, voilà, il y a beaucoup de... Mais en même temps, ça lui permet, il fait ça aussi dans Chroniques japonaises, de revenir aux origines de notre humanité, aux légendes. Donc, par exemple, il dit que cette façon de trouver que la baleine est présente dans nos vies, ou les animaux sont présents dans nos vies, vient certainement du long séjour que nous avons tous fait dans l'Arche de Noé. Et il redéfinit comme ça nos mythes avec des petites histoires, parce que c'est un fabuleux conteur. Et son rapport aux animaux lui permet en fait de redéfinir notre humanité, en disant qu'on n'y comprend rien. Et la formule qu'il utilise, je crois, dans ce livre-là, c'est « parce qu'on est si con » ou « parce qu'on n'y comprend rien ». Bon, il y a beaucoup de notre stupidité dans cette...
De notre bêtise.
Ouais. De notre bêtise, de notre sottise, dit-il. Alors, je me suis demandé, c'est pas forcément bêtise, ça peut être sottise. C'est-à-dire, c'est pas qu'on ressemble à des bêtes, c'est qu'on... On est stupide, voilà. Et justement, les animaux nous permettent de prendre conscience de notre sottise et de prendre conscience qu'on se croit plus important qu'on est et qu'on ne voit pas les relations qu'on pourrait avoir avec la vie, tout simplement la vie la plus simple.
Et quelle qu'en soit sa mesure à cette vie-là, parce que par exemple, dans le poisson-scorpion, il peut raconter son observation des blattes ou des petits insectes. Enfin, il y a aussi un rapport au vivant bien avant que ça ne soit la mode, puisqu'on va beaucoup parler d'images, puisqu'on l'a dit, hein, ce livre-là, c'est un livre où il y a énormément d'images et leurs agencements à ces images sont signifiants et significatifs. On écoute une archive de Bouvier, cette fois c'est en 93 dans l'émission Agora sur France Culture.
Pendant 30 ans, j'ai quand même, et je continue, cherché de l'image, vécu de l'image, ça a été mon métier alimentaire pendant très très longtemps, mais je la poursuis... En développant des codes qui m'intéressent, je me fais mon petit musée imaginaire, comme Malraux, sur par exemple ce qu'on appelait autrefois l'invention du monde, c'est-à-dire toute l'histoire des voyages, qui donne lieu à une iconographie merveilleuse. Et puis j'ai une autre marotte que j'appellerais un peu les rêves du corps. C'est la magnifique image, je ne dirais pas seulement anatomique, mais physiologique, c'est-à-dire la vision de notre corps dans différentes traditions culturelles, taoïstes, indiennes, occidentales, une sorte de folie anatomique. Et justement, ce qui est amusant dans le rapport texte-image, c'est de créer des chocs inédits, de faire comme un arc dans une lampe de cinématographe où on met deux pôles en présence et ça fait une étincelle.
La voix de Nicolas Bouvier sur France Culture dans l'émission Agora, on l'entend vraiment en iconographe, en chercheur d'images, en agenceur d'images. Moi, j'avoue que j'ai complètement découvert cet aspect de Bouvier. Je savais, voilà, sa cohabitation avec Thierry Vernet, mais pas du tout son rapport à l'image. Qu'est-ce qu'on peut en dire et en quoi est-ce que vraiment Le Hibou et la Baleine, c'est un livre d'images ? Nadine Laporte ?
Oui, c'est un livre d'images. Alors, dans le rapport de Nicolas Bouvier à l'image, je crois qu'il y a Thierry Vernet, qui est peintre, et dont il dit que Thierry Vernet, le premier voyage, l'usage du monde, donc entre 53 et 54, 55 avec Thierry Vernet, jusqu'en Afghanistan, ils étaient tous les deux, et il dit que Thierry Vernet lui a appris à voir en peintre.
Hautaigne.
Bah, je crois que, de toute façon, plus pragmatique, il y avait aussi une nécessité professionnelle en fait pour Bouvier de gagner sa vie en étant iconographe et que
j'ai vécu de l'image pendant 30 ans. Exactement. Et c'est intéressant cette double formule, c'est à la fois j'ai gagné ma vie mais aussi ma vie a été faite de ça.
Mais je crois que ça rejoint aussi ce qu'il dit de trouver du réconfort dans les mots. Je crois que c'est en fait dans les récits que nous tous hein, que ce soit des récits littéraires, cinématographiques ou des images qu'on peut trouver du réconfort là-dedans. Et il me semble par exemple que de la même manière qu'il faisait de la magie blanche d'écrire ses phrases avant de se mettre à écrire, il épinglait énormément des images au-dessus de son bureau, qui sont des images qu'il a réutilisées dans certains de ses livres. Et je crois que tout ça, c'est le même processus quelque part de réconfort. Donc en cherchant un métier qui était peut-être au départ une nécessité financière, je crois qu'il a aussi... trouver quelque chose de très complémentaire en fait avec l'écriture.
Donc ça veut dire que vous en tant que lectrice, vous qui l'avez lu d'abord dans le texte, on pourrait dire Hautaigne, finalement vous vous promenez dans ces étincelles créées par Bouvier entre des images dont on va parler un petit peu plus précisément et des textes sans tellement faire de différence dans le matériau, quoi. C'est-à-dire que là, j'ai devant moi, j'ai un poème, une photo en noir et blanc, puis la reproduction, puis un zoom dans cette photo, puis un peu plus tard, je sais pas, un âne, puis un dessin à l'encre, puis un zoom sur un atlas. Pour vous, c'est une sorte de continuum de Bouvier.
Alors, oui et non, c'est-à-dire que moi j'ai commencé par le poisson-scorpion, donc il n'y a pas d'image. Par contre, évidemment que tout texte crée des images mentales et que moi il y avait une sorte de fascination et en même temps il y avait beaucoup de choses que je ne comprenais pas. Par exemple, le fait d'appeler ça revient aux animaux, le tex, le poisson scorpion, qui est en fait un tout petit animal anecdotique à un moment du livre, qui n'est pas si anecdotique que ça, parce que ça se rapporte aussi à son signe astrologique et à celui de la femme qui vient de le quitter, enfin, etc. Mais moi, il y avait toutes sortes d'énigmes comme ça que je ne comprenais pas. Par la suite, j'ai lu d'autres livres où il y a effectivement des images, mais ça ne veut pas dire que tout me parle. Ça fait 20 ans, que un peu plus, que j'ai lu Bouvier pour la première fois. Il y a des choses qui, sur le moment, ne me parlaient pas. Maintenant, j'ai mis tout ça de côté. Puis, en y revenant, je dis, ah tiens, cette image qui m'a jamais parlé, maintenant, je comprends pourquoi elle était là. Je crois que c'est souvent ce qu'on dit d'un bon livre, d'une bonne œuvre, c'est qu'on peut effectivement y revenir encore et encore. On y voit toujours quelque chose de différent.
C'est quoi les images qu'on trouve dans Le Hibou et la Baleine, Nadine Laporte ?
Il y a un peu de tout, en fait. Au début, ce sont les dessins de Thierry Vernet dans L'Usage du Monde. Ensuite, il y a des photographies de Bouvier au cours de ses voyages, beaucoup de photographies du Japon en particulier, de portraits de Japonais qui sont extrêmement beaux. Il y a une reproduction de l'âne culotte, donc des images que lui, comme dit Aude, avait chez lui. Hein. Donc l'âne culotte, c'est justement l'illustration qu'il avait devant lui pour, dit-il, se souvenir à quel point
il est sot et ne sait rien.
Voilà, il ne sait rien. Donc il y a des images personnelles. Des photos qu'il a prises, et puis il y a aussi des illustrations qu'il a photographiées, qu'il aime, qu'il a trouvées. Donc il y a en particulier la reproduction d'une femme morte par Okuzai, là, avec le lézard qui boit le sang à la bouche de la femme morte, et qu'il commente en fait en disant, voilà, c'est à la fois elle est morte et lui est vivant, enfin, et le lézard est vivant. Donc c'est vraiment ce livre, c'est vraiment une pérégrination, on va prendre un de ces mots,
dans son
imaginaire, dans ses préoccupations aussi, parce qu'il parle du corps, ouais. Effectivement, beaucoup.
Il y a des reproductions, de façons de voir le corps, mais on sent bien qu'il s'intéresse à la fois des façons de voir le corps anciennes et venues d'autres mondes. Donc c'est des reproductions de dessins, d'illustrations où qu'il met sous la catégorie rêve de corps. Oui. Et c'est intéressant parce que c'est à partir de la manière dont on peut, je sais pas, penser le corps au 16e siècle en Allemagne ou je sais pas, au 18e ailleurs, qui va opérer lui aussi une variation, une réflexion, mais dans son présent, quoi.
Oui, en fait, les images fonctionnent dans ce livre-là comme une ouverture complète sur le monde, sur l'univers et sur les grands problèmes de l'homme, en fait. Le temps, la mort, effectivement, la déchéance, peut-être, ce que dit un visage, le rire, le désastre, la joie, l'enthousiasme. Donc les photos, les illustrations, les images de ce livre sont vraiment, j'ai l'impression de les voir comme des points qui ouvrent, en fait, et qui lui permettent, dans les textes, de rêver. Enfin, c'est quand même une écriture extrêmement précise, hein. Bouvier, il rêve, mais il rêve quand même avec le crayon à la main, en barrant et en travaillant beaucoup, mais qui lui permettent de rêver à des grandes problématiques de l'humanité. Et Aude parlait tout à l'heure de Nerval, je pense que quelquefois, il n'est pas très loin de cette espèce de mystique du visible, en fait, avec le crayon. Quoi.
Oui, moi, ça m'a fait beaucoup penser à des œuvres que j'aime énormément. C'est-à-dire tout le travail de l'atlas d'images de Georges Didier Huberman, mais aussi tout ce que fait Didier Huberman à partir d'Abi Warburg, mais aussi les livres de Godard, Histoire de cinéma, qui sont aussi des espèces de compositions à partir de captures d'écran de films. Et c'est quand même comment composer, vous disiez, c'est un continuum de récits, Haute-Seine, mais c'est comment composer quelque chose. Peut-être que ce serait le réduire que de dire que c'est que du récit, mais des étincelles, des agencements, presque des énergies, en fait, en faisant cohabiter des textes et de l'image. Vous l'avez dit, une des préoccupations évoquée par Bouvier dans ce texte-là, c'est la mort. On l'écoute dans une archive avec un extrait ensuite de Le Hibou et la Baleine.
Les solides ont une ombre et cette ombre s'allonge, forcément, avec les années qui passent. Elle prend une consistance de plus en plus importante et je la considère sans frayeur, avec plus d'intérêt que de tragédie. Et ça, c'est certainement un des innombrables cadeaux que m'a fait l'Asie, où on n'occulte pas du tout la mort comme on a coutume de le faire chez nous. Mais c'est chez nous un vice récent, parce qu'au Moyen-Âge, la mort était quand même très présente dans le Moyen-Âge occidental.
Quand je pense à cette dernière douane, dont nous ne connaissons ni le lieu ni l'heure, et dont les coutumes et tarifs me sont totalement inconnus, la curiosité l'emporterait presque sur la crainte. Sommes-nous vraiment venus au monde pour ce seul parcours qu'un proverbe des nomades baloutches résume laconiquement ? Naître, errer, mourir, pourrir, être oublié ? La question reste ouverte. Je constate seulement que cette échéance, lorsqu'elle se rappelle à moi, me stimule plus qu'elle ne m'accable. Elle m'invite à ouvrir l'œil, à dresser l'oreille, à froncer le nez comme un lapin, à prendre au plus court, à ne plus rien perdre de la cambrure des femmes, de l'odeur du chèvrefeuille, du fumet d'un gigot ou du chant du loriot. Cet état si transitoire qui est le nôtre me rend omnivore et attentif. On a bien tort d'évacuer la mort avec cette hygiène craintive, propre depuis près d'un siècle à l'Occident. On a bien raison de l'inclure dans le quotidien, comme le font toutes les grandes cultures asiatiques, et particulièrement le bouddhisme. Les solides ont toujours une ombre, qui chez nous manque un peu au dessin. Quel plus grand tintamarre qu'un enterrement chinois ? Et quoi de plus discret que nos pompes funèbres, avec leurs visages de beurre, leurs gants blancs, leurs limousines silencieuses ? L'admirable image de Hokusai a ce mérite d'apporter au moins deux certitudes. Une femme est morte, un lézard est vivant.
Le hibou et la baleine, c'est le titre de ce livre que confie Nicolas Bouvier aux éditions Zoé en 1993. Des images et des textes, on vient d'entendre une archive qui date de la même année, où Bouvier parle de ce qu'il appelle la dernière douane, de la mort, et juste après son espèce de commentaire rêveur, pérégrinateur, à partir de l'image de Kuzai, cette femme morte et ce lézard vivant. C'est un des axes, en effet, qui traverse le texte. Lui, il meurt 5 ans plus tard, mais sa proximité avec notre finitude, mais presque aussi notre matérialité, Nadine Laporte, qui affleure dans Le Hibou et la Baleine.
Oui, c'est certain. Le film, ça se voit encore plus. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que... Certains spectateurs m'ont dit, mais on a l'impression
que c'est testamentaire.
Voilà, c'est assez étrange, alors qu'il y a aussi beaucoup de choses très drôles. Hein. Je pense que c'est. Alors, moi, j'ai l'impression que Nicolas Bouvier était quelqu'un de très mélancolique et que cette finitude était extrêmement présente dans son imaginaire. Et puis le voyage en Asie, là pour le coup, je parle aussi pour moi un peu, mais il a tout à fait raison. Le voyage en Asie remet sur le devant de la scène, sans que ça soit tragique du tout, cette finitude et le bouddhisme. Donc là, je pense que
parce que la mort est là et qu'elle n'est pas cachée, c'est ça ?
Oui, elle n'est pas cachée. Elle fait partie du cycle de la vie, enfin des vies en gros. Alors il raconte quelque chose de très drôle, hein, l'enterrement d'un moine bouddhiste, un grand sage japonais qui meurt, donc tout le monde est très très triste, il y a beaucoup de monde à l'enterrement, etc. Et puis tout d'un coup il y a des explosions, on y raconte ça dans Le Hibou et la Baleine, et tout le monde pense qu'il y a un attentat, il se sauve, et en fait le moine avait caché dans son suaire des fusils d'artifice, hein, et donc il avait fait, donc tout le monde rit, évidemment, tout le monde est très soulagé. Je pense que ça c'est vraiment le lien qu'il y a entre la vie, la mort, le rire, l'autodérision. Et c'est à la fois une très grande mélancolie, mais en même temps une très grande humilité, parce que on aura tous cette dernière douane, effectivement.
Justement, on reviendra sur cet aspect mélancolique ou dépressif, même dans la question de l'auditeur là, qui va juste suivre, mais sur la question du rire, puisque c'est aussi présent dans Le Hibou et la Baleine, donc on a dit autodérision, mais presque un aspect presque blagueur de l'existence. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous aimez dans la littérature de Nicolas Bouvier aux Hauts-de-Seine?
Oui, beaucoup, parce que ça fait aussi partie de ces choses où c'est comme si tout à coup c'était permis de faire de la littérature comme ça. Et j'aurais, enfin, alors moi j'ai pas connu personnellement Nicolas Bouvier vu que j'ai commencé à le lire quelques années après son décès, mais c'est vrai que l'image que je m'en fais, j'aurais aussi utilisé le mot mélancolique, mais quelqu'un qui répondrait en fait à cette mélancolie ou à cette sorte de noirceur qui peut nous habiter temporairement par le rire, l'autodérision, et par la légèreté, et par se rappeler qu'on a tous un corps, que cette dernière douane, elle existe pour tout le monde, et une sorte de d'humour qui permet de relativiser, en fait. Mmh.
Ce qu'il disait au début de l'émission, dans l'archive de 93, quand il dit « Bon, beaucoup de lectures me permettent de à la fois régler ma mort, et puis de regarder les petits tracas de ma vie avec pas mal de, voilà, de distance, on va dire. »
Exactement, ouais.
On va écouter la voix d'Anthony, auditeur du Book Club. Il a lu Bouvier, ça fait pas si longtemps, et puis il a lu Le Hibou et la Baleine.
Bonjour le Book Club, bonjour à vos invités. J'ai lu Le Hibou et la Baleine de Nicolas Bouvier, que je lis depuis pas très longtemps. Mon texte préféré, c'est celui sur la musique, parce qu'il y a des phrases comme « La musique comme la lumière ou la souffrance n'a pas de patrie ». Et cette phrase, évidemment, elle renvoie à celle de Proust, hein, qui disait que la douleur faisait le tour de la Terre plus rapidement encore que l'électricité. Et ça sera ma question d'ailleurs, parce que en lisant Nicolas Bouvier, j'ai vu du pays, ça je m'y attendais, mais j'ai surtout découvert un homme miné, peut-être dépressif, et je voulais savoir si c'était lié à l'écriture ou si c'est quelque chose qui l'avait poursuivi toute sa vie. Merci pour votre réponse, et puis surtout merci de m'avoir écouté.
C'est bien normal, merci à vous Anthony pour cette question que j'adresse à Nadine Laporte et à Haute-Seigne. L'aspect dépressif de l'écriture de Nicolas Bouvier, est-ce que c'est un mot qu'on peut utiliser? Vous avez parlé de mélancolie, on a évoqué rapidement le poisson-scorpion. Souvent, vous dites que l'usage du monde, c'est le livre champagne, et que le poisson-scorpion, c'est le livre gueule de bois. Voilà, c'est quelque chose qui est présent, quoi, l'aspect, la noirceur chez Bouvier.
Oui, alors le livre Gueule de bois, mais enfin c'est un livre extraordinaire, c'est une gueule de bois bijou quand même, hein, avec des saphirs, des couleurs. C'est un livre, enfin c'est un des plus beaux livres du monde quand même sur le plan du style, je veux dire simplement. Donc la mélancolie de Nicolas Bouvier, je pense que oui, c'était un trait de caractère. Son père visiblement était ce qu'on appellerait aujourd'hui bipolaire. Hein. Voilà, donc il y avait peut-être, je ne sais pas, quelque chose qui venait de sa famille. Et puis il y a une sorte de, effectivement, de nostalgie. De nostalgie d'un monde qui sera un monde de merveilles et qu'il a arpenté par la plante des pieds en voyant que c'était pas tant des merveilles que ça et en essayant chaque fois de relativiser.
Mais auquel il aurait cru, c'est-à-dire quoi? Il aurait cru à un monde de merveilles et il aurait déchanté?
Non, pas du tout. C'est pas un désenchantement, mais je pense que c'est en fait il dit que pour écrire l'usage du monde, s'il était allé jusqu'au bout, il aurait écrit le livre des merveilles de Marco Polo, qui est une sorte de mensonge. Ce livre-là, c'est une sorte d'invention de Marco Polo pour beaucoup de choses. Et Nicolas Bouvier aimait les choses, aimait les contes, aimait toutes ces choses qui réenchantent le monde, en fait. Voilà. C'est pas qu'il était forcément désenchanté, mais je crois qu'il était très lucide, qu'il voyait très très bien son voyage en Iran. Galet assez lent, c'est quand même pas une partie de plaisir.
C'est son épisode terrible, il est malade.
Même au Japon, il y a des choses qui sont vraiment dures, où il prend les plus belles photos du monde, là, le mur japonais, il est assis sur un tas d'ordures avec des mendiants, c'est quand même pas... Mais il réussit par une forme de dérision et puis de style extraordinairement beau. Enfin, il y a vraiment un jeu de beauté, à faire que cette mélancolie devienne belle, ce qui est aussi une des caractéristiques de la mélancolie. Hein. Si on était toujours ivre de champagne, peut-être que la vie serait moins intéressante.
Haute-Seine, sur cet aspect-là?
Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Nadine, et aussi, je crois que c'est par rapport à la question de l'auditeur que cette mélancolie. Alors, je sais pas du tout si elle peut être dépressive ou pas, mais elle est plus en lien peut-être avec le voyage. Et personnellement, j'apprécie ça, cette lucidité, cette honnêteté qu'il a dans le voyage, qu'avec l'écriture, parce que je suis pas du tout pour perpétuer ce stéréotype qu'il faut forcément souffrir d'une forme de dépression quand on écrit. Par contre, je pense qu'il a eu le mérite d'écrire le voyage en décrivant aussi ces moments difficiles. Et donc forcément, quand on part des mois en voyage, en fait, on n'est pas tous les jours dans un hôtel, on n'est pas tous les jours en train de se dire « c'est génial ce que j'ai vu aujourd'hui ». Enfin, il y a aussi des moments de grande fatigue, des moments de maladie.
Il dit aussi combien ces voyages l'ont défait de lui-même.
Exactement.
Fait de moi, c'est comme si voilà, il se défaisait de ce qui. On a parlé beaucoup de la matérialité du corps, mais on a l'impression qu'il décrit comment il, je sais pas, comme s'il perdait son corps et son lui en même temps, quoi.
Bah, il dit qu'il perd des plumes en fait. Ouais. Enfin, il dit ça vous fait, il vous défait, et les deux choses sont bonnes en fait. Enfin, il y en a pas, elles se font en parallèle, et je crois que c'est vraiment ça le mérite. Parmi d'autres de son écriture, en fait, de mettre ce double sens en avant. Donc, il y a une mélancolie, puis en même temps, il y a une joie, une recherche de l'émerveillement. Moi, je vois toujours cette photo de lui, probablement vers la fin de sa vie, avec des yeux très, qui me semblent très enfantins, comme ça, très rieurs, qui cherchent une sorte de malice dans les choses. Donc, pour moi, elles sont vraiment, vraiment complémentaires.
Vous dites, vous parlez des plumes, mais il y a cet entretien filmé de mars 1996 et à la fin de ce livre-là, Le Hibou et la Baleine, il y a quelques petits extraits courts qui sont reportés, qui sont datés. C'est une vie qui vous vide, on perd des plumes au sens d'une poule, l'égorne dont le croupion est plumé, mais on sait au moins où on les a perdues et pourquoi, parce que si on a des plumes, c'est pour les perdre, ça ne sert absolument à rien de vouloir les conserver toutes, de conserver son intégrité connerie, et puis aller faire la roue comme un paon jusqu'au bord de la tombe, autre connerie. Donc moi, je suis assez déplumée, je suis assez mal en point, mais je sais pourquoi. Le Book Club continue.
France Culture, Le Book Club, Marie Richeux.
Et le lundi, il continue avec vous ces semaines en ce moment, Clémentine Mélois, dans la rubrique Lecture d'actu. Surprise! Salut Clémentine déjà.
Bonjour Marie.
Surprise, mais vous nous parlez de la chanteuse et actrice américaine Selena Gomez.
Oui Marie, parce que le 27 janvier dernier, Selena Gomez, star des réseaux sociaux, publiait sur sa page Instagram une vidéo d'elle en pleurs après l'arrestation massive de migrants illégaux au lendemain de l'investiture de Donald Trump. Elle pleurait de désespoir et elle n'était pas au bout de ses peines vu ce qui se profile ces jours-ci. Ces larmes m'ont fait réfléchir à l'exercice délicat que vous me proposez pendant quelques lundis, à savoir faire un parallèle entre un fait d'actualité récent et un fait littéraire. Comment, lorsqu'on n'est pas éditorialiste, trouver les mots justes pour exprimer en 5 minutes son dégoût, son inquiétude, sa rage ou sa compassion face au spectacle sidérant que nous offre l'actualité? La meilleure réponse est peut-être celle de Selena Gomez, un long sanglot comme aveu d'impuissance. Mais bien sûr, ce ne serait pas très radiophonique.
Quoique.
Et ce n'est pas cela qu'on attend d'un écrivain.
Mais alors, d'après vous, puisqu'on fait cette proposition à des écrivains, en effet, toute l'année, des formes de résidence, qu'est-ce qu'on attendrait d'un écrivain, Clémentine Mélois?
Je suppose que quand on demande à un écrivain de se prononcer sur l'actualité, on attend certainement de lui une vision, un engagement, ou au moins une réponse intelligente, bien tournée, riche en figures de style habiles et en images efficaces. Quelque chose qui ressemble à ses écrits, c'est-à-dire à ce qu'il tente laborieusement de formuler en s'y reprenant 10 fois. Pour ma part, j'en suis incapable. Dans son livre « L'ultime auberge », l'écrivain hongrois Imre Kertész, prix Nobel de littérature en 2022, écrivait ceci à propos de l'écriture. Le jeune homme qui m'a demandé comment devient-on écrivain, je lui ai répondu que cela se passait de la manière suivante. Des phrases se mettent à bouillonner dans le cerveau, et quand on les écrit, elles ne sont pas telles qu'on les avait imaginées. On change une ou deux lignes, une phrase, c'est-à-dire qu'on entame une lutte pour l'expression, et c'est cette lutte qui fait l'écrivain. Il me semble que le temps long de l'écriture échappe par nature à l'immédiateté de l'information. Bien que les écrivains vivent dans le monde des vivants, dans la même quotidienneté que leurs contemporains, bien qu'ils soient traversés par les mêmes inquiétudes, bombardés par le même afflux d'informations, sensibles au même air du temps et dépendant des mêmes contingences, avant que toute cette matière ne se retrouve dans un livre, il faut un temps d'imprégnation ou de gestation. Et ce qui reste de l'actualité dans nos romans, C'est l'écume des jours, pour reprendre le titre de Boris Vian.
Et donc, puisque vous disiez qu'il y a ces écrivains, probablement il y a des écrivains, Clémentine Mélois, ou des autrices, qui pourraient échapper à cette règle et se sentir un tout petit peu plus à l'aise avec l'actualité. Ça doit exister.
Ça doit exister, et certains écrivains ont le goût de la chronique. Et je pense notamment au romancier et traducteur Alexandre Vialat. Ses chroniques, publiées dans le quotidien auvergnat La Montagne, de 1958 à sa mort en 1971, ont été réunies dans un recueil publié dans la collection Bouquins chez Robert Laffont. Dans ses chroniques, Vialat parle de tout et de rien dans un style irrésistible. Pour évoquer une exposition de peinture, il commence par décrire le brouillard gluant qui tombe sur la Seine. Le 17 février 1959, il y a 66 ans jour pour jour.
Pas mal.
Vous avez vu ça ?
Quel actif !
Et oui. Il note qu'il est encore tout juste temps de naître sous le signe du Verseau. Après, ce sera trop tard. Puis il enchaîne sur le commentaire d'un roman qui vient de paraître. Ailleurs, il est question de petites annonces, de pièces de théâtre, du dernier film en vogue et de la façon de reconnaître un pou femelle, je le cite, au moindre développement de ses muscles dorsaux.
Et si on suit cet exemple, qui est vraiment sympa, on peut s'intéresser à l'actualité, mais vraiment dans ce qu'elle offre peut-être de moins spectaculaire, Clémentine Mélois.
Et c'était aussi l'avis de l'écrivain Georges Perec. Dans son texte « L'infraordinaire », qui donne son titre au recueil posthume publié par Maurice Hollander en 1989, Georges Perec écrivait ceci. « Ce qui nous parle, me semble-t-il, c'est toujours l'événement, l'insolite, l'extraordinaire. 5 colonnes à la une, grosse manchette. Les trains ne se mettent à exister que lorsqu'ils déraillent, et plus il y a de voyageurs morts, plus les trains existent. » Et il poursuit plus loin. « Ce qui se passe chaque jour et qui revient chaque jour. » Le banal, le quotidien, l'évident, le commun, l'ordinaire, l'infraordinaire, le bruit de fond, l'habituel. Comment en rendre compte? Comment l'interroger? Comment le décrire?
Et dans ce même texte, et du coup, vu que j'ai reçu votre chronique ce matin, je l'ai fait, Perec nous recommande de faire l'inventaire de nos poches et de, je cite, « questionner nos petites cuillères ».
Oui, pour lui, c'est à travers ce genre de questions non essentielles que nous pouvons espérer capter notre vérité. Et c'est pour cette raison qu'un fait d'actualité en apparence dérisoire me semble au contraire d'autant plus essentiel à notre compréhension du monde. Et c'est de ça dont je me sens capable de parler. Et c'est sur ça que j'ai envie d'écrire. Pour les sujets plus graves, je me contente de fondre en larmes.
Et du coup, on vous écoutera avec passion. Tous les lundis, pendant votre résidence, Clémentine Mélois, au Book Club. Ce faisant, vous avez fait le taf, parce qu'en fait, vous nous avez fait ressortir de notre bibliothèque l'ultime auberge d'Imre Kertész, les chroniques d'Alexandre Vialat et l'infraordinaire de Georges Perec.
C'était un plaisir.
Lecture d'actu à réécouter sur franceculture.fr. Et pour ceux que ça intéresse, j'avais du sable et un bouchon de compote en gourde dans ma poche ce matin. Voilà. Et mes moufles. Dans le Book Club, on termine toujours par le grand jeu des pages musicales. Il s'agit de chercher de la musique dans les livres. Et chez Bouvier, il y en a pas mal. Il y en a souvent. Grand amoureux de la musique, vous en parlez dans vos textes. Nadine Laporte, on se quitte donc avec un extrait du livre Le Hibou et la Baleine, où il est question de musique. Au temple de Madurai, dans l'Inde du Sud, la déesse de la musique chevauchant un paon avec une impudeur admirable est un joyau d'érotisme paisible. On pourrait multiplier les exemples. Cette mère consolatrice a des milliards d'enfants, nous tous. Tout ce qui est conscient au monde est aussi harpe qui vibre, en majeur ou en mineur, dans l'encens et la pourpre ou dans les cris et le sang. Cette mère universelle n'accepte pas que ses fils nantis écrasent ses fils déshérités. Elle est plus forte que les écluses que nous avons construites par ignorance et aveuglement pour séparer Bach des Fatswaller, Yehudi Menuhin de Ravi Shankar, le prince du laboureur. C'est la meilleure boussole dans nos vies transitoires et c'est aussi le meilleur apprentissage de la mort. Cette musique mère suit chaque battement de chaque cœur jusqu'à la dernière ronde et jusqu'au silence. De tous les remèdes que cette planète bleue où nous vivons nous offre, la musique est le seul à être également partagée. Peu importe qu'on soit de ceux qui la donnent ou de ceux qui la reçoivent. Merci beaucoup, Aude Sein, d'avoir été avec nous pour évoquer Nicolas Bouvier et ce livre, Le Hibou et la Baleine, publié aux éditions Zoé. C'est aussi aux éditions Zoé qu'on peut lire vos textes.
Oui, tout à fait. Merci beaucoup.
Merci à vous, Nadine Laporte, d'avoir été avec nous pour évoquer Nicolas Bouvier. J'avais avec moi l'un de vos textes que j'ai lu, Nicolas Bouvier, Passeur pour notre temps, aux éditions Le Passeur. Passionnant texte. On mettra un lien vers le reste de votre bibliographie. Au son, c'était Jean-Guilain Meige, à la réalisation Vivien Demeyer. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club.